Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, pour ce deuxième épisode de Dessine-moi un corps. Cet épisode court est consacré aujourd'hui au voyeurisme au cinéma. Lorsque je parle de voyeurisme, je rattache souvent une connotation sexuelle à ce mot, et ce sera l'objet évidemment de quelques films dont je vais parler par la suite dans l'épisode. Cependant, le voyeurisme peut être aussi ce qui pousse seulement les gens à s'immiscer dans la vie privée des autres, qui les pousse à vouloir voir ou entendre ce qu'ils disent par pure curiosité. Soyez honnête, qui n'a jamais cherché à imaginer la vie de ses voisins? À observer leur intérieur, la décoration de leur chambre, s'ils habitent seuls ou à plusieurs. Observer, voir, épier, révéler à travers le prisme de la caméra, sont des thèmes très souvent abordés au cinéma, et parfois ils deviennent même le sujet principal du film. Allez, bonne écoute! Chaque être humain a naturellement une pulsion scopique. Chaque être humain a naturellement une pulsion scopique qui, si elle est poussée à un certain degré, devient pathologique et s'appelle la scoptophilie et fait de certaines personnes des voyeurs. Le voyeurisme se définit par le plaisir de regarder. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Certains scoptophiles sont ainsi à la recherche d'une représentation vraisemblable de la violence, du sexe et de la mort. Pour préciser, le voyeurisme serait l'expression perverse de la pulsion scopique. Si elle est bien présente en peinture, cette perversion voyeuriste emprunte dans le cinéma des voies bien différentes. Quand un individu décide de voir un film, peu importe la nature, ce n'est pas pour agir, car il est décidé au départ à se comporter en spectateur et non en acteur. Il contemple davantage qu'il n'agit. Le voyeurisme est une activité qui ne peut s'arrêter que par le regard de l'autre. La pulsion scopique chez le voyeur ne se boucle que lorsqu'il est pris en flagrant délit par le regard d'un autre, c'est-à-dire quand lui, de son côté, est lui-même regardé. Cependant, le spectateur est très rarement interpellé par un regard qu'aurait lancé un acteur à la caméra. Il faut qu'un angle, un écart soit maintenu, aussi petit soit-il, pour qu'opère la fiction. Pour autant, le spectateur, par cette pulsion scopique, ne cesse d'osciller entre son désir d'être transporté dans la scène regardée, la vivre, mais aussi de regarder la scène vue de loin comme un spectateur lambda. Le désir de mimétisme est bien présent dans tous les arts. L'avantage au cinéma, c'est que l'image bouge. Elle ressemble au quotidien du spectateur, qui peut ainsi plus facilement rentrer dans le processus d'identification, à l'inverse de l'image statique, qui laisse parfois peu de place à l'imagination. Le plan au cinéma change sans cesse, selon les directives du réalisateur, avec des alternances de gros plans et de plans généraux dans une même scène. Cette alternance peut ainsi créer un effet voyeur, en fonction du plan choisi, par exemple derrière une fenêtre, ou bien encore une serrure. Ce processus voyeur peut aussi être perçu à travers le plan subjectif. La caméra remplace le regard d'un personnage, montre ce qu'il voit, ce qui fait d'elle une caméra subjective. Le spectateur, par le biais de cette caméra, emprunte ainsi le regard du personnage et s'identifie provisoirement à lui, cherchant à lui faire ressentir des sensations. Pour ce faire, le plan subjectif utilise souvent la découpe d'une loupe, celle d'une longue vue, une serrure, l'entrebâillement d'une porte, une fenêtre et ses rideaux, un angle de mur, ou la présence d'autres personnages qui s'interposent entre celui qui regarde et celui qui est regardé. Les possibilités sont nombreuses. Comment se manifeste le voyeurisme dans le procédé cinématographique? Quel procédé le réalisateur utilise-t-il pour inclure le spectateur dans l'histoire? C'est ce que nous allons voir à travers quelques exemples. Le voyeurisme est rendu par différents procédés au cinéma. Il peut faire le sujet même du film, comme c'est le cas dans le film « Fenêtre sur cour » d'Alfred Hitchcock, réalisé en 1954. Avec son téléobjectif, un homme immobilisé à la suite d'un accident observe ses voisins depuis sa fenêtre. Il leur donne des noms et imagine l'histoire de leur vie, exactement comme le fait un réalisateur. James Stewart, l'acteur, est en fait un simple spectateur qui viole l'intimité d'autrui par son regard, en même temps qu'organisateur du dispositif qui va interpréter cette réalité. Fenêtre sur cour énonce que le cinéma est par essence voyeuriste. Et qu'est-ce qui ressemble à un voyeur immobilisé, rivé à son siège condamné à une vision bloquée? Un spectateur dans un cinéma, bien sûr. L'intérêt du film tient à l'ingéniosité du montage, des coupes, mais aussi à l'utilisation du téléobjectif, instrument indispensable pour satisfaire tout plaisir voyeur. Il tient également dans l'opposition entre les scènes muettes de la maison d'en face et le bavardage incessant qui se passe dans l'appartement. Les bruits se mêlent au dialogue, la musique les lie. Ce film est du génie. Dans le même genre, il y a aussi le film à la pure sauce américaine, American Beauty, réalisé par Sam Mendes en 1999. Englué dans un quotidien pas vraiment heureux, un père de famille s'éprend de la meilleure amie de sa fille, Et dans le même temps, sa propre fille se fait filmer à son insu tous les jours par un voisin adolescent un poil trop obsessionnel. À une échelle différente, on a ici tous les archétypes de la société américaine. Ce film est un pur génie qui nous montre la face sombre du voyeurisme, ses effets et ses conséquences. On se rend compte que le voyeurisme au cinéma était vraiment à la mode dans les années 70-90, puis il y a eu comme une recrudescence avec des séries du type Stalk, sorties en 2020, ou bien encore la série You, qui à défaut de faire l'unanimité, fait quand même sacrément flipper. Il y a donc aussi les films où le spectateur devient acteur de ce voyeurisme, il prend part au film. Cela me fait penser à un animé que j'ai récemment vu car fortement conseillé par une de mes amies qui s'y connaît vraiment en cinéma. L'animé japonais Perfect Blue de Satoshi Kon, sorti en 1999. L'histoire débute en se construisant sur les bases d'un thriller standard, où Mima, sans le savoir, devient la cible d'un harceleur anonyme associant obsession et voyeurisme, ce qui ne sera pas sans le rappeler le cinéma d'Alfred Hitchcock. Mais le premier long métrage de Satoshi Kon veut voir plus loin. Et adopter un style tout à fait particulier pour développer son intrigue. Autant que Mima connaît une véritable descente aux enfers mentales, le spectateur se retrouve lui-même happé dans un véritable tourbillon psychologique où réalité et illusion se mêlent. On cherche à le faire participer. Perfect Blue cherche judicieusement à esquiver l'évidence et la logique, incitant notre cerveau à suivre l'action et à être rationnel, mais cherchant toujours à brouiller les pistes et les possibilités. Qu'est-ce qui est vrai? Que voyons-nous réellement? Toujours ce foutu problème du regard. Je ne vais pas faire l'impasse sur le film érotique, comme vous vous en doutez sûrement. Le plaisir du voyeur qui sait pourquoi il regarde. Le contenu du film érotique, dont la définition minimale consiste en la représentation de la sexualité à l'écran, ou, pour être plus explicite, dans la description d'une rencontre de désir sexuel de personnages dont les corps sont mis en scène de façon à stimuler l'émoi sexuel des spectateurs. Ces films consistent le plus souvent en la représentation de scènes de danse ou de bains collectifs, exposant les corps nus ou dévoilés sous des angles bien choisis. En cela, le cinéma érotique est héritier de la tradition libertine en littérature qui court tout au long des trois précédents siècles. Mais en appelant l'imagination des spectateurs, celui-ci devient acteur en visionnant ce genre de film. Outre les films cultes comme Emmanuel, sorti en 1974, je me dois de mentionner le film Basic Instinct, en 1992. J'ignore si vous l'avez vu, mais moi, il m'a profondément marqué. Dans ce film, il y a une scène mythique, probablement l'une des scènes les plus sulfureuses du cinéma américain, et j'exagère à peine, dans lequel l'actrice Sharon Stone croise et décroise les jambes sans culotte devant un Michael Douglas médusé et devant un spectateur pour le moins médusé aussi. Cette scène fait encore polémique aujourd'hui, puisque l'actrice affirme que la scène était censée être coupée au montage et qu'elle a été dupée par le réalisateur. Pure scène de voyeurisme pour changer donc. Et je ne parle même pas de toutes les scènes de striptease, de danse, comme dans Boulevard de la Mort de Tarantino, où le spectateur voyeur ne peut s'empêcher d'être hypnotisé par la danse de la jeune femme. La représentation des corps nus au cinéma participe à cette mise en scène du voyeurisme. Prenons l'exemple du film Pulsion, un autre thriller érotique de Brian De Palma, cette fois sorti en 1980. Le film prend le spectateur en otage des fantasmes voyeuristes du réalisateur. Au début, tout est plutôt calme. Une femme s'ennuie dans une routine de couple sans saveur. Une après-midi au musée, elle rencontre un homme avec qui elle a une aventure torride à l'arrière d'un taxi, puis la scène continue dans l'appartement de celui-ci et bim! S'ensuit un véritable cauchemar. Comme un topos, deux scènes de douche, l'une au début de l'intrigue et l'autre au dénouement, renvoient inévitablement à la scène emblématique du film Psychose. Pulsion alimente ou répond à une pulsion scopique. D'ailleurs, les personnages de Brian De Palma sont tous des voyeurs qui observent, par les fenêtres, à travers des jumelles, sur un écran de télévision, dans un rétroviseur, un miroir, ou le reflet d'une lame de rasoir. L'utilisation de l'œil caméra que l'on retrouve dans le cinéma de David Lynch et d'Hitchcock est aussi un bon moyen de provoquer un sentiment de malaise ou de peur chez le spectateur. Face à cet œil filmé de très très près, qui semble le regarder, le spectateur devient le sujet observé, l'arroseur arrosé. Le regard voyeuriste et scoptophilique est un des points cruciaux du plaisir filmique. Trois types de regards sont généralement associés au cinéma. Celui de la caméra qui enregistre les événements filmiques, celui du public qui regarde le produit fini, et ceux que se portent entre eux les personnages dans le film. J'ai essayé de démontrer comment le dispositif cinématographique et son spectateur simulent le processus de voyeurisme. Le jeu des identifications, l'œil de la caméra et l'alternance des points de vue et des cadrages permettent cela. L'œil et le regard ont un rôle central. L'œil n'est pas seulement un instrument optique et un élément du corps humain, il participe comme source de la libido et tente de satisfaire la pulsion scopique. La plupart du temps, afin d'adhérer à la fiction cinématographique, le spectateur reste dans un désir de voir tant qu'il n'est pas interpellé par un regard caméra. L'extraction du regard caméra du dispositif donne accès à l'espace symbolique. Comme le manifeste de façon différente l'œil en gros plan, l'identification primaire et le regard, il existe une zone d'opacité inaccessible à l'origine de toute pensée. J'espère que ce court épisode vous aura plu. Retrouvez toutes les références cinématographiques sur mon compte Instagram. On se retrouve début mai sur un tout autre thème. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine!